bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venu à cette rencontre autour du livre de Pierre Judé de Lacombe, donc Homère. Pierre Judé de Lacombe est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, où j'ai eu la chance. Donc moi, je suis Christophe Hébard, je suis maître de conférence en histoire de l'Antiquité grecque à Bordeaux et directeur de la revue des études anciennes qui co-organise cette rencontre, où j'ai eu l'occasion donc d'assister à plusieurs séminaires de Pierre Judé de Lacombe. Et je dirais pour commencer que ce livre, pour moi, est une forme de dialogue continué où on retrouve toutes les qualités intellectuelles de Pierre Judé de Lacombe. Et donc je voudrais commencer par dire à quel point, selon moi, c'est un grand livre. Et il ne faut pas se laisser abuser par la jaquette qui pourrait laisser penser que c'est un livre, une biographie, donc un livre sans ambition. En fait, c'est un livre qui a une grande ambition, puisque, au fond, il propose ni plus ni moins que de nous restituer, de nous rendre Homère, c'est-à-dire nous rendre essentiellement la lecture de l'Iliade et de l'Odyssée. Je voudrais donc commencer par l'interroger sur ce point, c'est-à-dire l'interroger depuis la science dont il est un des maîtres, la philologie, donc cette science des textes, cette science qui est destinée à nous apprendre à lire. Et je dirais que le parcours qui nous est proposé ici, il est véritablement conforme à l'agenda de la philologie, hein, puisqu'il consiste à débarrasser le texte de toutes les scories qui l'accompagnent, c'est-à-dire tout ce qu'on croit savoir avant même qu'on commence à le lire, ce qu'on croit savoir sur l'auteur, ce qu'on croit savoir sur l'époque qui est censée être représentée dans les textes, ou simplement l'époque à laquelle les textes ont été créés. Et je dirais que c'est ce parcours-là que Pierre Judé de Lacombe nous encourage à mener. Et il le fait au fond, en prenant la catégorie du mythe au sérieux. Et je trouve que la première entrée, peut-être, que l'on peut proposer pour lire le livre de Pierre Judé de Lacombe, c'est de le suivre dans cette réflexion sur ce qu'est le mythe, et en particulier, puisqu'il commence un peu par là, le mythe qui serait ou qui est, puisque moi j'adhère totalement à la proposition qui nous est faite, ce mythe qui est à l'intérieur du nom d'Homère lui-même. Et on va peut-être commencer par là, puisque c'est le premier geste de réflexivité que vous nous proposez de faire, c'est-à-dire de réfléchir à comment le nom d'Homère est reçu, ce qu'il signifie, ce qu'il dit peut-être du texte, ce qu'il dit des lectures proposées du texte, puisque vous voyez, c'est le premier élément qu'on peut essayer, vous voyez, de déployer pour essayer de passer dessous et retrouver ces textes. Alors, peut-être commençons par là. Comment on peut appréhender Homère comme un mythe, c'est-à-dire le nom d'Homère comme un mythe?
Oui, ben, bonjour, merci d'être venu. Alors, c'est vrai, comme dit Christophe, moi, mon métier, c'est, on appelle ça philologue. Hein, je fais des études littéraires, c'est-à-dire je lis les textes pas à pas, pesamment, dans la langue d'origine, et en essayant de comprendre, et d'abord pour comprendre, en m'obligeant à ne pas comprendre. C'est-à-dire que si on prend un texte d'Homère, mais ça peut être aussi Platon ou n'importe quel auteur, même un auteur moderne, si on croit comprendre tout de suite, on perd tout. Donc il faut s'obliger à se dire, voilà, dans la lettre du texte, dans le travail qu'un auteur a fait avec sa langue, il se passe quelque chose de nouveau, que ce soit Mallarmé, mais aussi bien Homère, même si Homère n'était peut-être pas un auteur. Ça, je l'ai appris de quelqu'un à qui je dois énormément, Jean Bollac, qui était professeur de grec à Lille, et j'ai rencontré en mai 68. Alors, mai 68 n'a pas produit que des philologues, comme vous savez, donc Dieu merci d'ailleurs. Mais c'était un peu cette idée-là, c'est-à-dire voyons voir par nous-mêmes, mais au lieu de se laisser aller par simplement l'enthousiasme, de voir avec, si possible, les outils de la science les plus pesants, les plus pénibles, les plus destructeurs possibles, mais qui au moins obligent le regard à être attentif. Donc moi, je travaillais sur la tragédie, sur beaucoup de choses. Et c'est en fin de carrière que je suis arrivé à Homère, et c'est vrai que ça m'arrive de dire que j'aurais pas pu le faire avant, tellement c'est compliqué, riche, et puis il y a tous ces siècles d'interprétation, et on peut pas les ignorer. Et un éditeur, un jour, m'a proposé de faire une biographie d'Homère, et bon, c'est alors dans un dialogue fictif que j'ai mis au début du livre, qui n'a pas plu d'abord à l'éditeur qui voulait le supprimer, mais enfin bon, je lui ai donné le beau rôle quand même. Je lui ai dit, mais vous savez, Homère, il a pas existé, c'est quand même nécessaire d'exister pour avoir une vie à raconter. Donc, Et c'est sûr qu'au début, j'étais vraiment, je faisais des cauchemars, je ne savais pas comment faire. Et donc, mon épouse, qui est présente ici, pas seulement parce qu'elle est bordelaise, mais parce qu'elle doit subir tout ça, m'a dit, mais arrête, t'as qu'à traiter ça comme un mythe. Et c'est vrai que j'avais à côté de... Enfin, dans la chambre, j'avais un livre de Lévi-Strauss, de Claude Lévi-Strauss, sur les masques, les masques indiens près de Vancouver, et lui qui traite ces masques même comme des mythes. Et un nom propre, c'est un mythe. Oedipe, c'est un mythe. Oedipe, Oedipus en grec, ça veut dire celui qui a le pied pouce gonflé, Oedi, parce que ses parents l'ont accroché à une branche par les chevilles pour qu'il soit livré aux bêtes dans une montagne. Bon, l'histoire, comme vous savez, a été différente. Mais Oedipus, c'est aussi... Oïda en grec, ça veut dire je sais, pousse, c'est le pied, c'est-à-dire celui qui a le savoir de ce que c'est que avoir un pied, deux pieds, trois pieds, etc. Donc c'est la fameuse énigme. Dans le nom d'Oedipe, vous avez toute une histoire. Homère, Homéros, c'est pareil. C'est-à-dire que, alors d'abord, c'est pas son nom, c'est un surnom. Il s'appelait avant Mélésigénès, qui veut dire peut-être, enfin, il y a plusieurs sens, qui est né du fleuve Mélos. Parce que le fleuve Mélos, c'est le même nom que le chant Mélos, ça veut dire aussi noir, Mélas, hein, donc, comme dans Mélancolie, parce que les poètes ont affaire avec l'ombre. Donc, et il serait né de ce fleuve ou à côté de ce fleuve. On ne sait pas exactement où ni quand, ni comment. Mais Homère, c'est un surnom qui lui a été donné quand, dans des circonstances qui ont été inventées, évidemment, parce que Homéros, ça veut dire otage en grec, encore en grec moderne, ça veut dire otage. Et il y a plein d'histoires qui disent qu'Homère a servi d'otage, parce qu'il y avait des guerres incessantes, donc au 8e siècle avant Jésus-Christ, dans ces régions d'Asie mineure, entre la Turquie actuelle et les îles, là. Donc tantôt c'était des Grecs éoliens, tantôt des Grecs de nos tribus qui prenaient le pouvoir, ou encore des barbares, etc. Donc ils pouvaient servir d'otage. Mais surtout Homéros, et c'est là que c'est vraiment intéressant, c'est un nom qui s'analyse. Homme, c'est comme dans homogène, donc ça veut dire c'est qui rassemble. Qui rassemble le semblable. Et Eros, c'est la même racine que articulation, que donc arthrite aussi, pour voir les gens de certain âge. Et donc, c'est celui qui articule ensemble. Et ça, c'est vraiment fondamental. Ça veut dire que Homère, il est le grand poète, on disait aussi le poète. Parfois, quand on disait le poète, en Grèce ancienne, c'était Homère, ça ne pouvait pas être un autre. C'est celui qui sait assembler. Et par exemple, on dit des muses, ça c'est un autre poète, Hésiode, qui dit ça, c'est un mot très voisin, on dit que les muses, elles sont arti epeiai. Arti, c'est-à-dire elles savent articuler, epeiai, c'est épos, l'épopée, ou les mots, simplement. Les muses, ce sont celles qui savent articuler. Donc la poésie, ça c'est tout à fait intéressant, c'est pas une affaire d'inspiration, comme ça, d'être en contact avec les dieux. Et pareil, on ne dit jamais qu'Homère a été initié par les muses, strictement jamais. Il peut être le fils d'une muse, mais ça, c'est ce que dit Aristote, mais bon, pas sûr. Et donc, c'est celui qui sait mettre ensemble. Et ça m'a guidé, parce que c'est un non-mythe, c'est-à-dire ça. Un nom qui est tout un mythe, il y a toute une histoire. C'est un errant, parce qu'il sera otage, il ira dans une ville, puis dans une autre, etc. Il aura des histoires complexes de toujours le changement. C'est pour ça qu'on ne sait pas où il est né. Il y a plein de villes qui revendiquaient sa naissance. Mais le nom lui-même veut dire celui qui sait ajointer, l'assembleur, qui sait construire des poèmes. Et donc un poème, c'est d'abord, c'est pas simplement la parole qui vient de la muse, c'est pas simplement le haut fait, tout ce qu'on peut dire sur Achille ou sur Ulysse ou Héraclès, etc. C'est tout ça, évidemment. Mais c'est surtout l'art de mettre ça ensemble, c'est un travail. Et c'est le même mot que Homère, ça renvoie au mot harmonie. Harmonie, ça veut dire l'articulation. Et ce qui est tout à fait passionnant, c'est qu'à un moment dans l'Odyssée, quand Ulysse, donc, qui a vécu 7 ans chez Calypso, donc c'est à l'extrême ouest, c'est la femme qui dissimule, qui cache, exactement comme la mort, hein, Calypso, celle qui recouvre. Et il est bloqué là, et finalement les dieux permettent qu'il s'en aille. Et donc pour ça, il faut qu'il est seul, il a perdu son bateau, qu'il construise un radeau. Et la description de la construction de ce radeau est assez longue dans le poème L'Odyssée, et c'est ça qui fait repartir le poème, d'une certaine manière. Et les mots qui sont employés pour dire le travail que fait Ulysse, ce sont des verbes de cette racine, donc le verbe « ararisco », qui veut dire « mettre ensemble », donc même racine que Homère. Et c'est tout à fait frappant, ça, c'est-à-dire que la poésie est d'abord affaire d'assemblage. Et c'est moins une affaire d'inspiration. C'est une affaire de, voilà, c'est savoir mettre ensemble. Et du coup, on comprend beaucoup de choses. C'est que Homer, par exemple, il peut ne pas avoir inventé tout ce qu'il dit. Il peut reprendre des formules, des langages, des récits antérieurs. Simplement, il met ensemble. Alors, c'est peut-être ça que moi qui m'a poussé à travailler sur le mythe d'Homère, c'est que, vous voyez, quand j'étais, parce que comme philologue, j'étais embarqué dans une traduction de l'Iliade. C'est-à-dire que j'enseigne dans une université qui est magnifique, grandiose, sublime, où les étudiants ne savent pas le grec. Donc, beaucoup, donc, n'est-ce pas? Donc, je devais traduire pour pouvoir parler d'Homère, il fallait que je traduise. Et donc, petit à petit, ça fait boule de neige, je me suis dit, mais je vais traduire ça, puis, et essayer de comprendre. Mais jamais je m'étais posé la question de, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière l'événement historique ou est-ce qu'il y a une individualité derrière? Je m'étais bien interdit de poser la question. Et avec ce nom d'Homère comme l'assembleur, l'ajointeur, c'est comme un charpentier, eh bien à ce moment-là, ça m'a fait penser à peut-être la possibilité de dire quelque chose de personnes qui sont derrière tout ça.
Alors c'est justement l'originalité, je trouve, de votre ouvrage, c'est que cet ouvrage, justement, il est centré en réalité sur les textes, et il se propose de considérer les textes comme des événements, c'est-à-dire que au lieu de chercher nécessairement ce qu'ils disent, à quelle société ils font référence, éventuellement, vous nous proposez un pas de côté, en quelque sorte, ou du moins un déplacement qui va consister à considérer ces textes, vous le dites d'ailleurs, comme une rupture. Et c'est ce qui vous permet, me semble-t-il, de dépasser l'opposition entre tradition et génie créateur isolé, puisque finalement, pendant très longtemps, la question homérique, enfin, l'une des manières d'aborder la question homérique, c'est-à-dire qui est l'auteur, d'où viennent ces textes, a consisté à varier entre l'idée qu'il y avait donc un génie, le premier poète, et peut-être déjà premier et le plus grand, donc premier et dernier, des poètes qui auraient comme ça posé sur la table de la culture, de l'humanité, deux œuvres indépassables. Et puis ensuite, avec justement la révolution philologique de la fin du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, une mise en question de cette idée du génie créateur et l'idée que ce ne serait plus, au contraire, que de la tradition, une idée qui d'ailleurs remonte à l'Antiquité, puisque dès l'Antiquité, on trouve déjà cette hypothèse concernant l'Iliade et l'Odyssée, par exemple chez Flavius Joseph. On a eu de cesse, depuis lors, de vivre dans ce balancier, hein, un petit peu l'auteur, c'est-à-dire le retour de l'auteur, il y a bien quelqu'un, ou au contraire, non, en fait, il n'y a personne, et c'est juste, au fond, mis bout à bout, mais pas du tout dans le sens où vous l'entendez, c'est pour ça que je vais maintenant vous poser la question. Donc, mis bout à bout, puisqu'il ne s'agit pas donc d'un assemblage qui serait juste mis bout à bout, dans ces cas-là, mais vous proposez justement une réflexion autre qui, me semble-t-il, engage une manière de réfléchir sur ce que c'est que la création, au fond, la création littéraire, qui est donc ni un individu qui serait tout seul, isolé, et qui comme ça produirait deux textes remarquables, et ni simplement un individu totalement poreux qui ne serait plus que le perroquet répétant sa tradition. Alors justement, Quelle vision vous nous proposez de cette création, de cette rupture? Quelle rupture représentent ces deux textes?
Oui, alors, tout d'abord, c'est vrai que quand on fait ce métier, bon, c'est-à-dire qu'on le fait aussi pour une cause. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire, on appelle ça de la science, c'est-à-dire on prend toutes les variantes. Bon, sur l'Iliade, il y a 700 papyrus qui donnent un texte parfois un peu différent. Mais parfois, c'est quelques mots, quelques lignes, etc. Il faut passer par tout ça, puis tous les commentaires, etc. Mais quand même, on se dit... Enfin, pour moi, ça paraît naïf, mais ça, je le revendique. La question, la base, c'est qu'on se dit « Homère, c'est vachement bien ». C'est-à-dire que quand on lit de l'Homère et quand je le fais pas à pas en traduisant, mais je suis époustouflé par la force de ces textes, une profondeur. C'est comme la Divine Comédie de Dante. C'est d'une réflexion sur ce qu'est le langage, mais la société, tout ça. Et c'est dans une précision, dans une force, une liberté, une invention permanente. Enfin, quelque chose qui nous paraît nouveau, parce que tous les poèmes d'avant, on les a perdus. Il y en avait des milliers et des milliers de poèmes avant Homère. On a quasiment rien. On a peut-être deux vers. Bon, un autre poète. Mais je veux dire, donc c'était d'abord se dire, on prend parti pour ces œuvres. Et quand on voit les interprétations, on se dit, ou bien il y a ceux, comme vous dites, qui disent, Homère, c'est un génie, Bon, donc louanges, etc. Puis, bon, quand même, ceux qui disent mais non, c'est pas possible, il y a pas Homer, personne n'a pu faire ça comme ça. Il y a trop de contradictions. On se dit bah oui, ceux qui qu'on appelait les analystes, hein, ceux qui découpaient Homer en auteurs différents, ça a commencé au 19e siècle. Ils disent des choses vraies. Quand ils disent qu'il y a une contradiction entre tel champ et tel autre, c'est vrai. Donc on peut pas dire que tout ça est sorti de la tête d'un grand cerveau. Bon, mais par ailleurs, quand on dit c'est pas un génie, ce n'est que la tradition. Donc Homer n'est que le porte-parole d'une manière normale de parler des héros, des dieux, c'est un langage purement formulaire. C'est vrai que c'est extrêmement répétitif. On perd cette force. Bon. Et là, bon, moi, c'était un peu un déclic. C'était que, donc, avec mon épouse, on est allé à l'Olympia à un concert du bluesman Buddy Guy. Je ne sais pas si vous connaissez. Lui, c'est une vieille légende du blues. C'est le vieux blues, quoi. Il est né en 1935. Et il a fait le blues tout en étant et il le perpétue. Et là, on voyait. Donc, c'était le blues, donc la tradition, mais entièrement de lui. Et à un moment, il se mettait à imiter les autres, Muddy Waters, Ray Charles, B.B. King, en se moquant. Mais c'était lui. Donc, il n'y a aucune contradiction, enfin, dans vraiment l'art, entre la tradition et la liberté créatrice. Au contraire, il faut que la tradition, pour qu'elle soit une tradition, c'est-à-dire qu'elle soit véritablement reçue et acceptée, et qu'elle soit donc reprise, qu'elle dure, il faut qu'elle soit recréée à tout moment. On voit ça avec le rock'n'roll, on voit ça dans la musique classique énormément. Donc, c'est-à-dire que Homer, c'est quelque chose de ce type. Alors, la question, c'est en quoi cela peut-il être une révolution ? Je veux dire, alors ça paraît un peu fort de café de dire ça, parce qu'on n'a pas les textes d'avant. Et moi, j'ai pas mal de collègues qui disent que, oui, tu charries un peu quand tu dis que Homer est un auteur révolutionnaire. Enfin, un auteur, c'est un groupe d'auteurs, enfin, de chanteurs, sans doute. Mais je crois que ça tient à cette parole, l'ajointeur. Ce qu'ils ont fait, même s'ils n'ont pas inventé, ces gens-là, les histoires d'Achille, de Troie, etc. Ça, c'est le mythe. Le mythe de Troie, c'est quoi ? C'est que Troie doit tomber. Pourquoi ? Alors, c'est un débat. Il y en a qui disent parce que c'est une ville coupable, parce que Hélène, Paris de Troie, est allée prendre Hélène et en plus les trésors de Ménélas. Bon, donc, ça justifie le châtiment de Troie. Un poète comme Hésiode, qui, lui, parle de la justice divine, serait de cet avis. Homère ne tranche jamais. On ne sait pas pourquoi Zeus a décidé que Troie doit tomber. De même, Achille doit mourir. De même, Hector doit mourir, tué par Achille. Patrocle, le grand ami d'Achille, doit mourir, tué par Patrocle. Zeus doit perdre son fils Sarpédon dans la guerre. Tout ça, c'est le mythe. C'est-à-dire, ce sont les choses qui doivent absolument se produire. De même, Ulysse doit rentrer chez lui tout seul, sans ses compagnons. Ça, c'est pas Homer qui a inventé ça, ou les gens qui se faisaient appeler Homer. Ça, c'est donné, ça, c'est raconté depuis des siècles. Le problème, c'est que faire de ce mythe ? Raconter le mythe, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on aurait un bon récit, comme ça, avec un principe qui explique comment on passe d'un événement à l'autre. Mais ça ne suffit pas, ça ne crée pas l'intérêt. D'abord, ça ne crée pas la beauté, ça ne crée pas la tension, ça ne crée pas ce qui est la production propre de la poésie, c'est du temps, une forme de sculpter le temps, de lui donner des intensités différentes. Alors, c'est ça, cette poésie qui, pour nous, est absolument impensable, parce que pour nous, un auteur peut inventer tout. Proust invente quasiment tous ses personnages, même s'il part de la réalité. Bon, Balzac aussi, même s'il décrit une société. Et les auteurs contemporains inventent encore plus, ce qui fait que parfois, on ne sait pas où on en est. Mais je veux dire, là, non, tout a déjà été dit, des milliers de fois, fixé. Et là où c'est nouveau, je pense, c'est que au lieu de re-raconter cette histoire, de dire « oui, c'est pour telle raison que Zeus a fait ça », etc., ça, on sait que des poèmes quasiment contemporains faisaient comme ça à l'époque d'Homère. C'est que Homère a pris un événement paradoxal, si on parle de l'Iliade, comme le cœur, et il s'en tient absolument là, le cœur de tout son récit. La colère d'Achille. Donc c'est le premier mot de l'Iliade, la colère d'Achille. Qui est un mot, c'est d'une violence inouïe, la colère, c'est le pouvoir qu'a quelqu'un de plus fort que les autres, souvent un dieu, mais pas seulement, de détruire tous ceux qui sont contre lui. C'est ce que fait Achille, qui normalement ne peut pas, parce qu'il a beau être fils d'une déesse, c'est un petit prince. Et il a une colère dévastatrice qui fait qu'une grosse partie de l'armée des Grecs va disparaître, et disparaître de manière ignoble, en plus. Donc ça, c'est... Homer se dit, je ne raconterai... Enfin, les poètes qui s'appelaient Homer, faut toujours prendre la précaution, je ne raconterai que cela. Une colère qui est, maintenant on dirait disruptive, hein, une colère qui introduit une crise. Pourquoi ? D'abord pour Achille, parce que Achille, c'est le héros qui est destiné à mourir vite en faisant des exploits. Alors, comme les Grecs n'étaient pas des pacifistes, ça veut dire massacrer le maximum de gens. Et dont notamment Hector, celui, le prince royal qui tient la ville de Troie. Et si Hector meurt, Troie va tomber. Donc ça, c'est l'exploit que doit accomplir Achille. En se mettant en colère, en refusant de combattre parce que son souverain Agamemnon lui a pris sa captive, il se nie lui-même, il se détruit lui-même. Il est un néant. Et on voit, il s'ennuie, il pleure, il crie, il hurle pendant des jours et des jours sur le bord de la plage parce que donc il est fou de colère contre son roi Agamemnon. Cela met les dieux en crise parce que la mère d'Achille, Thétis, qui est une puissance marine en fait extrêmement forte, va demander à Zeus de punir les Grecs d'avoir fait cela et donc de massacrer les Grecs alors que Zeus veut la victoire des Grecs. Donc c'est déjà, ça fait une chose. La société grecque s'effondre. La société divine s'effondre aussi parce qu'il y a les dieux qui sont pour Troie, qui pensaient dans leur défendre une ville très riche et très pieuse. Il y a ceux qui sont contre Troie parce que Paris a volé Hélène. Donc là, c'est bien un conflit très net et on ne sait pas ce que Zeus veut. Bon. Et de même, Troie va s'effondrer parce que Troie pense qu'ils vont gagner et en fait ils vont perdre. Donc on assiste avec la seule colère d'Achille comme événement inouï, en plus un événement impie, parce que les Grecs ont dit qu'ils sont laissés sans sépulture, on assiste à la destruction de tous les ordres humains et divins. Et à la fin, bon, évidemment, ça se rétablit, puisque le pauvre Achille perd son ami Patrocle, et donc, pour le venger, il reprend des armes, et là, il va tuer Hector, etc., pour mourir juste après. Ça, c'est pas raconté dans l'Iliade, mais c'est dit. Donc, on a un poème qui, au lieu de re-raconter une énième fois le mythe de Troie, reprend toute cette histoire, qui en plus est l'histoire mondiale. C'est-à-dire que pour un Grec, enfin, la plupart pensaient que nous ne sommes pas des demi-dieux, c'est fini, les dieux et les déesses ne couchent plus avec les mortels. Ça, c'est une histoire close, tout ça parce que Aphrodite se moquait des dieux qui couchaient avec des mortels et puis revenait un peu penaud dans l'Olympe, donc il se moquait d'eux. Et Zeus a dit pour la venger, pour venger, lui-même a été coutumier du fait, donc il a rendu Aphrodite amoureuse d'un homme. Donc c'est donc comme ça qu'elle engendre Aîné. Donc c'est le dernier demi-dieu, c'est fini. Après, il n'y en a plus, donc aucun d'entre nous ne peut être demi-dieu. Et donc nous ne sommes plus en rapport direct avec les dieux pour un Grec. Donc on ne les voit plus, etc., alors qu'Achille, Ulysse pouvaient les voir. Et donc la guerre de Troie, c'est la fin de cet âge-là. C'est-à-dire c'est la fin de l'âge des héros. Les Troyens sont morts et les Grecs, ils meurent presque tous dans le retour qui est dévastateur pour eux parce qu'ils ont été tellement impies pendant la prise de Troie, qui est un crime contre l'humanité gigantesque, qu'ils doivent être punis. Et donc c'est fini. Cette époque de l'héroïsme est finie. Alors, pourquoi c'est une rupture? C'est que, justement, je pense que ce qu'ont fait les Homères, enfin ces Aèdes, c'est de représenter toutes ces histoires très connues à partir de l'élément qui semble plus contraire, à savoir cet abandon d'Achille, ce désespoir d'Achille. Et comme ça, les gens... C'est ça qui est comme le roc, qui est donc... C'est le réel, cela. C'est ce qui fait que... Donc c'était le mythe, ça, mais c'est donc ça qu'Homère a choisi, que tout ce que les dieux peuvent dire sur la justice, leur pouvoir, tout ce que les hommes peuvent dire sur leur tradition, sur leur rituel, etc., sur leur société, tout ça, de certaine manière, vient heurter, vient s'effondrer devant ce fait. Et donc les auditeurs, qui savaient que jamais ils n'auront à vivre les histoires d'Achille ou d'Hector, etc., mais ils voyaient tous les ordres du monde possibles, tout ce qui peut servir de modèle, mis en question. Et ça, je crois que c'est une force de la poésie énorme pour, au lieu de simplement caresser les gens dans le sens du poil, au lieu de caresser les nobles aussi dans le bon sens en disant « voilà, vous êtes les aristocrates, voilà, etc., etc. », donc c'est de dire « attention, la société est précaire ». Et ce qui compte, ce sont vos expériences à vous, expériences de violence. Comme les Grecs vivaient en guerre en permanence, eh bien, l'Iliade, ça les met en état de crise affective, mais aussi politique, de pensée, de réflexion. Et tous ces récits de morts qui sont épouvantables à traduire, il y en a un peu assez quand même, eh bien, c'est pour en faire en sorte que les états extrêmes de l'existence, les gens puissent se les approprier. Dans ce sens que... Voilà.
Alors cette réflexion, je trouve, j'en profite pour faire un petit peu la publicité pour les autres ouvrages de Pierre Jugé de Lacombe, ceux qui viennent de sortir, mais je la trouve très bien développée dans le livre donc, qui est sorti chez Bayard, Les Petites Conférences, Être Achille ou Ulysse, qui est un petit livre, mais qui est lumineux pour comprendre les poèmes homériques, et en particulier pour comprendre cette idée d'exploration des frontières des sociétés d'humanité. C'est particulièrement vrai pour Ulysse, dont l'Odyssée est jalonnée d'exploration des limites de la condition humaine, puisqu'il va évidemment dans les enfers, on lui propose d'être immortel, il refuse, donc il explore comme ça tous les possibles, au fond, qui permettent de dessiner en retour l'être humain nouveau, celui qui ne sera plus jamais un demi-dieu, celui qui n'aura plus les mêmes contacts avec le monde divin. Et de ce point de vue, c'est la problématique du retour, c'est-à-dire le retour est en réalité l'entrée dans un nouveau monde qui est ce monde, disons, plus incertain, où les incertitudes changent de nature, où les dieux sont là, mais plus de la même façon. Ils peuvent être là, mais de façon plus ou moins indirecte, alors que leurs interventions sont de nature, me semble-t-il, différente dans l'Iliade. Alors, tout ce que vous venez de...
Simplement pour dire, c'est un livre que j'ai fait, c'était une conférence dans un théâtre à Montreuil, pour des enfants. Et après, les enfants m'ont posé des questions, et parfois j'avais du mal, donc ils étaient vraiment au courant. Donc, pour ça que j'ai un peu délié. Oui, en deux mots, l'Odyssée, c'est pas seulement le retour chez soi. C'est Ulysse, dans cette tradition-là, donc qui n'est pas celle de l'Iliade, parce que dans l'Iliade, le grand vainqueur de Troie, en fait, c'est Achille, puisqu'il a tué Hector. Là, dans l'Odyssée, le grand vainqueur de Troie, c'est Ulysse, puisqu'il a construit le fameux cheval. D'ailleurs, c'est intéressant, l'artisan qui l'a fait s'appelle Épéios. Et c'est un nom qui rappelle Épos, la parole et l'épopée. Donc le cheval est lui-même construit comme... Il a ajointé, justement, comme un poème. Et donc Ulysse, qui a obtenu la gloire la plus haute, c'est une apothéose. Hein. Aucun homme n'a été aussi haut dans la condition humaine qu'Ulysse. Et il doit rentrer chez lui. Rentrer chez lui, c'est quitter ce monde des exploits, de l'apothéose, on peut dire, pour retrouver le monde répétitif, de la gestion d'un domaine, la famille, le travail, etc. Donc c'est le monde non héroïque. Donc c'est ce passage-là que raconte l'Odyssée. C'est pas simplement la suite. C'est-à-dire c'est comment on peut passer du monde de l'Iliade au monde des auditeurs de l'Iliade. Et ça, c'est tout le thème. Et pour ça, il faut expérimenter des formes de société complètement bizarres, étranges. Ça, ce sont toutes les îles par lesquelles Ulysse doit passer entre Troie et sa petite île pauvre, Ithaque. Voilà.
Alors, ce qui est fascinant à ce stade de notre discussion, c'est qu'il y a une forme de vertige. C'est-à-dire que le texte, quand on écoute Pierre Gilles Lacombe, quand on le lit, prend une forme d'intelligence réflexive sur lui-même. Puisque vous voyez, on lui prête a priori beaucoup de finalités, et des finalités extraordinairement élevées, puisqu'il s'agit de rendre compte de ce que c'est que, au fond, être un être humain, ce que c'est que de vivre avec les autres, de ce que c'est à la limite un ordre social, comment ça tient, puisque en interrogeant toutes les modalités de la destruction de l'ordre social, en creux, il y a aussi une réflexion de fait sur ce qui fait tenir un ordre social, ce qui permet donc à une communauté de rester une communauté et de ne pas se déchirer. Et ceci, c'est aussi bien vrai dans la communauté des Achéens que dans l'assemblée d'Ithaque ou la cité d'Ithaque, qui est elle-même en conflit en permanence, et il s'agit de résoudre le conflit. Mais ici, votre livre, Homer, me semble-t-il, rajoute une strate supplémentaire, c'est que vous démontrez que cette réflexivité que nous prêtons au texte, elle n'est pas de notre fait, simplement. C'est-à-dire que ce n'est pas le philologue qui introduit une réflexivité ou une réflexion qui ne serait pas présente dans le texte, auteur au singulier, auteur au pluriel, au fond, peu importe, mais en réalité, cette réflexivité est déjà à l'intérieur du texte. C'est-à-dire le texte lui-même, bien qu'Homère soit absent du texte, en quelque sorte, même s'il parle à la première personne, son nom n'est pas dans le texte, à la différence des poèmes d'Hésiode, on a quand même, à certains moments, et vous les analysez dans le livre, des éléments qui nous permettent d'aller dans le sens d'une très forte réflexivité, c'est-à-dire d'une compréhension de ce qui est en train d'être fait pendant la création poétique.
Oui, ça, c'est un point. C'est-à-dire que, effectivement, parfois, on peut avoir tendance à dire comme c'est archaïque, c'est joli, mais c'est un peu bête, quoi. C'est-à-dire que c'est pas vraiment élaboré. Que l'idée d'une poésie qui réfléchit sur elle-même, ça serait beaucoup plus tardif. Ça, ce que je pense pas du tout, c'est les anciens, visiblement, le pensaient pas comme ça. Pour eux, Homère, c'était un Big Bang. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a perdu tout ce qu'il y avait avant, mais eux, ils ont pris, quand on lit les textes, donc beaucoup plus tardifs, 5e siècle, etc., ou 6e siècle même, tout vient d'Homère. Donc c'est comme s'il il avait mis en place quelque chose d'absolument nouveau, et tout vient d'Homère, c'est aussi bien la poésie que le savoir sur les choses, sur comment faire la guerre, sur comment, sur les objets, etc. Donc ils avaient fait d'Homère une espèce de livre de science, pour un peu comme la Bible, si on peut dire. C'était leur référence. Et alors, quand vous dites, vous avez raison, réflexivité, bon, c'est un mot un peu barbare, mais ça veut dire simplement que les aèdes, les chanteurs qui ont fait ça, savaient ce qu'ils faisaient. Et donc, ils ont construit quelque chose qui est, comment dire, qui est complexe. Alors, comment ça se sait, ça? On peut dire, après tout, c'est votre projection, c'est vous qui le dites. Eh ben non, je pense que c'est... on le voit dans le texte lui-même, parce que si on lit l'Iliade ou l'Odyssée, on voit que Homère dit, tiens, on pourrait raconter ça comme ça. On l'a fait comme ça, mais on peut aussi le raconter comme ça. Donc, les épisodes se suivent. Apparemment, c'est la même chose, c'est un peu décalé. Et c'est une espèce de jeu pour comprendre qu'est-ce que c'est que la tradition et mythique. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que ça nous mène? Avec beaucoup d'humour. Par exemple, il y avait toute une tradition, comme donc c'est la Bible, ou bien en Mésopotamie, babylonienne, etc., chez les Hittites, de dire voilà quels sont les dieux, enfin la Bible, il n'y en a qu'un, les dieux, etc., quel est le principe, d'où ça vient, la genèse, comment c'est fait. Et Homère, il nous dit, je m'en moque. Hésiode en fera toute son affaire de construire une genèse du monde et des dieux pour expliquer la société humaine. Homère s'amuse avec tout ça. Et donc, il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie. On peut dire ça sur le passé, ou au contraire, on peut dire ça, on peut recommencer le passé, etc. Donc, il y a une espèce de jeu extrêmement libre. C'est pour ça que ça paraît, d'une certaine manière, moderne, au sens où c'est vraiment de la poésie qui travaille sur son matériau. Non, mais qu'est-ce que je peux faire avec toutes ces histoires? Et le point de vue d'Homère, et c'est ça qui me paraît important, et ça apparaît aussi dans ce qu'on a raconté d'Homère lui-même. Ensuite, c'est un point de vue non dogmatique. C'est-à-dire qu'Homère, ses poèmes ne vous assènent pas une vérité sur ce que le monde, etc. Encore une fois, c'est une poésie beaucoup plus expérimentale qui part de phénomènes de crise, de rupture, d'impossibilité, de souffrance gigantesque. C'est pour ça que c'est aussi généreux. C'est-à-dire les souffrances sont prises en compte pour dire, mais à partir de cette expérience, comment je peux comprendre simplement les choses, mais non pas. Mais à part, ce qui compte, c'est l'expérience individuelle. Ce n'est pas une vérité globale. Et ça, je pense que les anciens l'ont compris dans les histoires qu'ils ont racontées sur Homère. Donc peut-être qu'on peut en parler, oui, parce que oui, c'est bon, parce que Homère, et ça, Christophe l'a dit, et c'est un point essentiel, ne se nomme strictement jamais. Donc il dit « chante-moi la colère d'Achille », etc. Donc on peut avoir « je », ou bien parfois il va dire à Patrocle « ah, mon pauvre » ou « abruti, c'est maintenant que commence ta perte ». Donc de temps en temps, il interprète ces personnages. Mais strictement jamais, il ne donne son nom. Il ne dit ni non, pas sa famille, son origine, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'histoires sur lui. Et ça, c'est très important. Alors qu'un autre, comme Hésiode, va dire son nom. Moi, Hésiode, les muses sont venues m'enseigner, m'ont initié, etc. Homère, jamais. Et donc, c'est une non-personne, d'une certaine manière. Alors, ce qui, du point de vue du prestige, de l'autorité, est beaucoup plus fort. Si vous dites, moi, j'ai la vérité, je m'appelle machin, bon, ça peut être sympathique, mais je veux dire, c'est beaucoup plus important que ce soit les autres qui vous nomment. Et pour ça que j'ai pensé que Homère, c'est un nom qui devait être là dès l'origine. Ou bien c'était l'un de ses chanteurs, ou bien plutôt, comme on voit dans les poésies orales contemporaines, ça peut être quelqu'un dont on dit qu'on reproduit le chant. Et souvent, que ce soit donc en Afrique ou en Amérique, on dit, voilà, je chante, ou en Asie, je chante les poèmes d'un tel. Mais le un tel, on dit, qui c'est? Ben oui, il habite le village à côté. En fait, personne ne l'a jamais vu. Mais il faut une autorité. Ça, c'est important. Alors, je veux dire en deux mots pourquoi je me suis intéressé donc à tout ce que les anciens ont raconté comme histoire sur Homère. Alors, au lieu de me dire tout ça c'est faux, je me suis dit non, ça renvoie à la nécessité qu'il y ait quelqu'un. Parce que si on voit que la poésie de cette époque, c'était une poésie qu'on peut dire rituelle, c'est-à-dire qu'elle était offerte aux dieux dans plusieurs circonstances, mais certaines circonstances, c'était des grands festivals magnifiques. Pour les aristocrates, plutôt, où des Grecs de plusieurs tribus venaient se réunir, à Délos ou ailleurs. Moi, je pense à assez haute époque, ça, c'est peut-être débattu. Ça m'arrangerait que ça soit à haute époque, mais bon, passons. On n'a pas la preuve. Mais disons qu'on se rassemblait pour offrir aux dieux, donc des offrandes, faire des sacrifices, mais aussi offrir des poèmes qu'on offrait aux dieux. Et le public devait dire c'est bien ou c'est pas bien. Donc, c'était jugé. Et on voit qu'on demandait, mais c'est qui le meilleur? Donc là, il y avait des concours, on devait, voilà, fallait être le meilleur. Mais le dieu pouvait à tout moment ne pas être d'accord avec ce qu'on offrait. Alors, Et c'est là, ça c'est un des points qui a aussi intéressé les économistes, justement, c'est-à-dire que le poème, c'est pas simplement un flot de paroles bien orientées, bien faites, c'est un objet. Et on en a une sorte d'image dans le poème de l'Iliade même, c'est quand Héphaïstos, Vulcain, le dieu artisan, construit un objet extraordinaire, c'est le bouclier d'Achille, où vous avez toute une représentation du monde, du cosmos, des activités politiques, guerrières des hommes. C'est un objet hyper construit et d'une, comment dire, avec une structure extrêmement claire. Donc c'est un objet impossible, aucun bouclier n'a jamais ressemblé à ça, mais c'est, disons, le monde vécu des auditeurs de l'Iliade qui est représenté dans l'Iliade même. Le poème, c'est un peu la même chose, c'est une construction harmonieuse et qui devait plaire. Et ensuite, si elle plaisait, elle pouvait être remémorée. Tout ça, c'était oral, évidemment. Et ça pouvait ensuite circuler. Mais si ça circule, pour être offert aux dieux et au public, ça doit venir de quelqu'un. Et ce quelqu'un doit exister. En plus, si c'est un chant divin, donc, puisque c'est la muse, on dit « chante-moi, muse, la colère d'Achille ». C'est-à-dire que les 24 chants de l'Iliade, normalement, ce n'est pas le poète qui parle. C'est la muse. Mais il faut qu'il soit porté par quelqu'un, par un être humain qui rend plausible le fait que les dieux se soient, la muse se soit adressée à quelqu'un. Et ce qui est frappant dans toutes les histoires sur Homère, c'est que Homère, c'est un, comment dire ça, c'est pas un grand, c'est un petit bonhomme. C'est-à-dire que il se fait avoir, il se fait voler des poèmes, il est vaincu dans un concours. Il n'a pas d'argent, il a une fille quand même, donc il doit doter sa fille, il n'a pas d'argent, donc il donne un de ses poèmes comme argent. Et puis bon, on va peut-être parler de sa mort ou des choses comme ça, mais bon, il est aveugle, alors on peut se débattre, est-ce qu'il est aveugle de naissance ou pas, d'autres ils disent, mais non, il décrit tellement bien la réalité qu'il ne peut pas être aveugle, c'est pas possible. Bon, j'ai encore vu un philologue empiriste anglais qui disait ça il y a quelques années. Donc, mais c'est un loser. C'est ça qui est frappant, ou dire que c'est un errant, on ne sait pas d'où il vient. Alors sa mère, ou a été violée par un mortel qui s'est enfui, ou elle a été violée par Apollon. Donc tout ça est complexe. En tout cas, il a pas de patrie. Il va lui-même demander à Apollon, c'est quoi ma patrie ? Alors le dieu, qui était peut-être son père d'ailleurs, lui dit, mais non, t'as pas de père, t'as qu'une mère, et donc t'as une matrie et pas une patrie, mais attention, c'est là que tu vas mourir, bon, etc., etc. Donc c'est quelqu'un qui est toujours en deçà de ce qu'il fait, des histoires grandioses qu'il raconte. Et il ne se nomme pas. C'est ça qui est frappant, parce que qu'est-ce que ça veut dire, cette espèce d'errance d'Homère, de l'auteur, enfin, qu'on a appelé Homère, que les anciens ont appelé Homère? C'est le fait que, justement, la poésie, c'est du langage, c'est très fragile. Et ça va partout. On ne peut pas dire « Homère, c'est chez moi ». Ça, c'est impossible. Donc si quelqu'un, les habitants de Chios, l'île de Chios, vont dire « Homère, c'est de chez moi », les habitants de Cumae, qui est sur le continent, pourront dire « Homère, c'est chez moi ». Donc Homère, c'est vraiment le poète qui est entre. C'est ça qui me paraît tout à fait fort. Donc pour moi, les mythes d'Homère, que les anciens ont racontés pendant des générations, c'est l'histoire de la diffusion de ces poèmes. C'est-à-dire, ces poèmes supposent qu'il y ait quelqu'un. Et dans un concours ou dans un festival, on disait « Chante-nous de l'Homère ». Et pas n'importe quoi. « Chante-nous de l'Homère ». Mais il y a un contraste entre le caractère grandiose de sa poésie et le caractère faiblard de ce petit bonhomme qui fait des merveilles. Et ça, alors, ça c'est le mythe d'Homère. Et il peut, donc, du coup, ça, comme disait Lévi-Strauss, un mythe, c'est pas une seule histoire, c'est un ensemble de variantes qu'on peut articuler ensemble, dans ce que j'essayais de faire. Et là, après, je me suis dit, mais si Homère, c'est un mythe, ben, Homère devait le connaître. Enfin, ceux qui ont fait l'Iliade devaient le connaître. Et ça, c'est le mythe d'Héphaïstos, justement, qui, comme c'est un loser aussi, bon, il est cocufié parce que sa femme, c'est Aphrodite, donc voilà. Et il est jeté plusieurs fois du haut de l'Olympe, etc., parce qu'il était affreux, donc ce qui veut dire qu'il a déjà été jeté une fois, bon, etc. Et donc il doit se cacher pour apprendre près d'un fleuve, l'océan, exactement comme Homère, va se mettre près du fleuve Mélès à Smyrne pour apprendre son métier, etc. Il va l'apprendre, Homère. Donc on a quelque chose de très voisin, donc il est handicapé, Héphaïstos, il est boiteux, il a des filles qui sont des robots qui lui permettent de marcher pour qu'il aille activer ses soufflets pour faire forger le bouclier d'Achille, etc. Mais avec tout ça, Héphaïstos produit les objets les plus beaux qu'on puisse imaginer. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que la cause de la beauté n'a pas à être belle, c'est-à-dire que c'est un travail. Et c'est un travail qui suppose l'errance, qui suppose des déconvenues, des défaites. Il se fait engueuler par une femme, etc. Bon, vous raconterez tout.
Bon. Mais pour poursuivre, il y a une autre marque de cette réflexivité sur ce qu'engage le geste poétique, et en particulier le statut de la parole, c'est-à-dire de quoi ça parle, de quoi s'agit-il. C'est une question que vous abordez lorsque vous faites apparaître l'articulation qu'on peut établir et qu'il faut établir, parce que le texte lui-même le fait, le texte c'est l'Odyssée en l'occurrence, entre Démodocos, donc Laède, et Ulysse, par rapport en particulier au statut de la connaissance et au problème de la cécité que vous évoquez, en rappelant cette boutade qu'on ne sait pas si Homère a existé, mais au moins on sait une chose, c'est qu'il est aveugle. Donc je le dis pour souligner l'humour et la finesse de l'écriture de Pierre Judé de la Combe, qui parcourt tout ce livre, ce qui le rend extrêmement agréable à lire. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette, non pas opposition, mais de cette articulation entre Démodocos et Ulysse, Démodocos donc aveugle, et Ulysse, celui qui était sur place, celui qui a l'expérience.
Oui. Je pense que ça c'est très très beau, c'est-à-dire que dans l'Odyssée, qui est le poème du retour, donc on revient dans la vie normale, on rencontre des poètes, dans l'Iliade presque pas. Parce que là, l'Iliade, c'est l'action héroïque où les hommes sont quasiment des dieux. Là, il s'agit de redevenir des êtres humains. Bon. Et le Ulysse, donc chez Nausicaa, dans l'île des Phéaciens, donc entend un Aède aveugle, Démodocos, qui veut dire celui qui est reçu par le peuple. Donc on va le chercher, il faut qu'il vienne là où sont les Phéaciens, dans un palais. Et Ulysse entend Démodocos raconter son histoire, la guerre de Troie, c'est-à-dire son histoire. Et donc, évidemment, il en pleure. Alors, et ça, c'est extraordinaire, parce que donc Ulysse pleure, alors que tous les Phéaciens sont ravis d'entendre cet Aède, ce chanteur, qui chante si bien des choses épouvantables, hein, les massacres des Troyens, etc., mais il chante tellement bien qu'ils en demandent, etc., alors que Ulysse pleure. Alors, le roi, Alcinoos, remarque et trouve que c'est pas normal. À un banquet, quand un Aède chante, on doit être heureux. Et Ulysse n'est pas heureux. Alors il pleure. C'est la très grande poésie. Ulysse qui pleure est comparé à la captive troyenne qui pleure sur le cadavre de son époux et que un Grec va taper dans le dos avec sa lance pour qu'elle aille en esclavage. Donc, c'est-à-dire que Ulysse pleure exactement comme il a fait pleurer les Troyennes quand il a pris Troie. Donc c'est très 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 beau. Et alors à cause de ça, donc Ulysse doit dire qui il est. Et du coup, il va se mettre lui pendant 4 chants à raconter ces histoires, sans chanter, mais en les racontant. Et à la fin, les Phéaciens ne seront pas pris dans l'espèce de bonheur que suscite la poésie, ils seront interloqués, complètement pris dans un silence, parce que pour une fois, c'était vécu, alors que Démodocos, lui, il a chanté quelque chose que les muses lui ont enseigné, tandis que là, c'est Ulysse lui-même. Alors que fait Homère avec ça? Parce qu'on a dit souvent, oui, Homère, c'était comme Démodocos, c'était un roi, un Aède qui allait de cours en cours, etc. Eh ben non, parce que Homère sait représenter un Aède comme Démodocos, qui fait son métier. Mais puisque Ulysse le remplace et fait autre chose, et qu'il faut imaginer que quand Ulysse remplace un Aède, cela est chanté par un Aède, celui qui chante l'Odyssée. C'est une manière de montrer que l'Odyssée, cet immense poème monumental de 12 000 vers, fait plus que faisaient ces aèdes qui chantaient des épisodes. Et donc là, c'est comme si, là, on voit bien que la poésie monumentale homérique, l'Iliade puis l'Odyssée, se démarque de ces productions qui sont plus liées à des cours de rois, etc. Donc on fait autre chose, on vise à quelque chose de beaucoup plus universel. Et ça, je pense que ça, c'est la rupture. Et le mythe d'Homère, parce que je pense qu'il faut qu'on laisse la parole à la salle aussi, qui sont... tous ils sont en train de pleurer comme une... Il faut que le mythe d'Homère, c'est précisément le mythe négatif de cette force de la poésie de pouvoir aller partout. C'est ça que fait, à mon avis, les histoires qu'on racontait sur Homère, c'est d'abord ça.
Bon, je crois qu'il est temps de livrer Pierre Judé de la Combe à la séance de dédicace.
Non, mais ça va.
Et en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je remercie Pierre Judé de la Combe et je vous remercie à toutes et à tous. À bientôt.
Merci.